En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres a organisé, en partenariat avec la Société asiatique et l'Institut national des langues et civilisations orientales, un colloque intitulé « Voir et concevoir la couleur en Asie ». C'était le 11 et le 12 janvier 2013. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de l'intervention de Claire Akiko-Brisset de l'Université Paris Diderot. Sa communication s'intitule « Couleur et sacré dans le Japon classique ».
Merci, Monsieur le Président. Je vais compléter la promenade proposée ce matin en parlant du Japon. Parler de la couleur au Japon est un sujet immense. Dans cette présentation, je me suis limitée à un corpus matériel restreint, où l'on verra qu'il est difficile, voire tout à fait impossible, d'aborder ce sujet sans inclure le support dans sa globalité. La couleur ne fait en effet sens que par rapport à son support, et c'est ce thème que je vais rapidement esquisser dans le domaine de la copie des textes sacrés du bouddhisme, pour le Japon classique, ou premier médiéval, puisque la majorité du corpus se situe au XIe et XIIe siècle. Alors, tout d'abord, il faut peut-être préciser quelques petits points élémentaires sur la pratique de la copie des textes bouddhiques. Cette pratique est attestée au Japon dans les sources dès le 7e siècle, mais il faut attendre le début du siècle suivant pour rencontrer dans les documents les premières mentions de copies du Sutra du Lotus, donc le plus important des textes canoniques du bouddhisme du grand véhicule Mahayana, donc au Japon. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je passe sur l'importance que revêtait rituellement la copie. Et je vais simplement m'attarder sur la nature matérielle des données dont nous disposons. Le Sutra du Lotus était au départ copié en 7 ou plus souvent en 8 rouleaux, chaque rouleau correspondant à 2, 3 ou 4 chapitres, et le tout comprenant l'ensemble de ces 28 chapitres. Ce découpage correspondait initialement au déroulement en 7 ou 8 jours des cérémonies de lecture commentées du Sutra, dont le plus ancien exemple connu date du milieu du 8e siècle. À partir de la fin du 8e siècle et sous l'influence de la secte Tendai, on va adjoindre aux 8 rouleaux du lotus 2 sutras supplémentaires, dits d'ouverture et de fermeture, et le nombre des journées ou leçons est donc étendu à 10 journées. Dans cette copie que vous voyez, qui comprend 8 rouleaux, on peut voir le début du 12e chapitre qui correspond au début du 5e rouleau. Donc la calligraphie est très soignée. C'est une copie qui comporte des marques de correction, donc ces petits points rouges que vous pouvez voir sur l'écran, et qui n'est donc pas en fait une copie votive. Donc les marques ici que vous voyez. Voici donc le schéma d'un rouleau illustré. Qui va vous permettre de comprendre mieux la structure matérielle du support. Donc, la copie et l'offrande de sutra étaient tenues pour des actes de dévotion particulièrement méritoires, et on va voir bientôt apparaître dans les sources écrites des descriptions de luxueuses commandes impériales de ce texte du Sutra du Lotus, copies qui seront agrémentées de peintures à partir du Xe siècle. Ces peintures prenaient place au début du rouleau, donc soit sur la couverture, soit en frontispice. Le texte venant donc juste après la peinture, donc on appelle la peinture de frontispice. Et avec le temps, on va constater une nette tendance décorative qui va mettre à profit tous les éléments du support, donc couverture, donc les deux peintures, couverture et frontispice, mais également l'axe du rouleau, le titre, les marges supérieures, inférieures du texte, etc. Et voici donc la façon dont apparaissent ces premiers sutras dits ornés, copies ornées. Ces copies votives devaient bénéficier dans leur réalisation d'un soin tout particulier, que ce soit au plan des matériaux eux-mêmes, par exemple la qualité, la beauté du support, l'utilisation d'étrampes d'or et d'argent plutôt que d'encre de Chine, ou bien au niveau donc de l'adjonction de peinture, dont le contenu thématique et l'exécution requéraient l'intervention donc de peintres professionnels. Et jusqu'à la calligraphie, Donc pour les copies de très grand prestige qui étaient parfois confiées aux plus talentueux calligraphes de la cour. Il y a tout lieu de croire que le lien culturel entre la copie et la pratique de lecture commentée du Lotus se trouve à l'origine donc de ces sutras ornés dont je vais présenter ici les types les plus représentatifs. Deux prestigieuses copies, donc en 925 et 954 respectivement, donc ont été calligraphiées et dédicacées par deux empereurs. Donc Daigo et Murakami, et ces deux très prestigieuses copies ont joué un grand rôle, semble-t-il, dans l'habitude prise par la suite, donc d'adjoindre systématiquement au rouleau destiné à servir lors des lectures commentées du sutra, des peintures de couverture et de frontispice, exécutées le plus souvent à la détrempe d'or et d'argent sur papier bleu foncé. Connues par les textes, ces copies impériales qui ont été perdues par la suite ont eu de plus une très grande influence sur la pratique privée donc de commandes de copies et de dédicaces de sutras, comme nous le montre l'activité pieuse des grands aristocrates de la cour impériale à partir de la fin du Xe siècle. Le nombre croissant des initiatives émanant du milieu laïque, donc évolution qui est sans doute à rattacher au fait que cette période correspond à une période d'angoisse un peu millénariste, puisque on croit au Japon à cette époque qu'on entre dans la période de la fin de la loi bouddhique. Donc ce nombre croissant des initiatives en milieu laïque est tout à fait caractéristique des 11e et 12e siècles et explique également la masse considérable des témoignages aujourd'hui conservés proportionnellement aux époques précédentes. La première copie impériale dont j'ai parlé, donc celle de 925, a été exécutée à la détrempe d'or sur un support bleu indigo. C'est le dispositif le plus courant que vous pouvez voir ici. C'est l'unique exemple conservé de ce type pour le 8e siècle. Mais il existe en fait trois autres types qui sont tout à fait semblables. Donc la détrempe d'argent sur fond indigo ici. La détrempe d'or sur fond violet-pourpre, et enfin un mélange d'or et d'argent sur fond indigo, donc pour la calligraphie, mais aussi pour les peintures. Ces copies donc ornementales, votives, donc qu'on appelle aujourd'hui sutras ornés, apparaissent donc dès le 8e siècle dans les sources textuelles, mais donc sur le plan donc des vestiges, hein, les premiers exemples remontent plutôt au 11e siècle. Et donc ces copies ornementales vont connaître une vogue ininterrompue qui va culminer au 12e siècle, parallèlement à d'autres grandes techniques décoratives polychromes que l'on va voir. C'est à cette époque que la diversification des techniques décoratives atteint son apogée, permettant ainsi l'expression du goût ornemental caractéristique du milieu aristocratique de la cour impériale japonaise et que l'on rencontre également dans l'art qu'on pourrait appeler profane. Mais il faut cependant se garder d'assimiler cette splendeur matérielle à une richesse purement ornementale. Dans le cas donc de ces sutras ornés, le goût ornemental revêt en effet la valeur particulière de ce que l'on appelle le shogon, c'est-à-dire le faste imposant et somptueux propre aux liturgies bouddhiques. Venue de la Chine des Tang, la calligraphie des textes sacrés à la détrempe d'or et d'argent apparaît donc très tôt, on l'a vu au Japon, et peut prendre donc comme support des papiers de diverses couleurs. Mais par ces couleurs, au symbolisme très précis que sont le bleu indigo et le violet pourpre, la copie du sutra donnait non seulement accès à un contenu, donc le contenu du texte sacré, mais aussi il donnait à voir la terre du Bouddha, autant dans sa matérialité que dans son contenu. Je reprends ici l'interprétation de Bernard Franck. La couleur bleu foncé vise en effet à rappeler celle qui irradie le béryl, donc vaidulia, en japonais luri, dont est constitué le sol de la terre du Bouddha, tel que la verront les pratiquants du lotus. Ce sol est en effet de béryl, plat et nivelé. Les 8 voies en sont délimitées par de la poudre d'or du fleuve Jambu, bordée d'arbres de matières précieuses. Les terrasses, les hauts pavillons, les belvédères y sont tous faits de matières précieuses et habités par une multitude d'êtres d'éveil. Cette couleur de béryl est aussi la couleur même de la contrée lumineuse à laquelle ont donné naissance les vœux du Bouddha guérisseur Yakushi. Celui qu'on appelle également en japonais luriko, c'est-à-dire la lumière de béryl, la lumière bleue. Fin de citation. On considérait en outre cette pierre, ainsi que l'or et l'argent, comme les plus importants des sept trésors, c'est-à-dire les matières les plus précieuses qui soient. Quant au violet pourpre, je cite, « son symbolisme serait celui de l'or violacé, Shimagon ou Embudangon en japonais, littéralement l'or de la rivière fabuleuse Jambu, le plus beau de tous les ors, et qui est notamment celui de la couleur du corps même du Bouddha. » Fin de citation. Quant à la couleur argent, on peut aisément l'associer à la splendeur du disque lunaire, symbole de l'éveil bouddhique, qui renvoie également à la marque intersourcilière du Bouddha, qui orne son front à sa naissance, souvent assimilée à une lune resplendissante. La lumière argentée émanant du front du Bouddha est également le symbole du Sutra du Lotus, seule lumière dans un monde plongé dans les ténèbres, dans un monde donc sans Bouddha, comme la lune entre deux soleils. Ainsi, les sutras calligraphiés à la détrempe d'or et d'argent sur des papiers bleu foncé ou violet pourpre, donc sutras qui constituent l'une des formes les plus anciennes des sutras ornés, proposent jusque dans leur précieuse matérialité un dispositif fortement connoté sur le plan religieux. Autrement dit, dans le Japon de cette époque, chacun des caractères donc tracés à la détrempe d'or ou d'argent sur un fond donc indigo ou violet chacun de ces caractères composant le Sutra du Lotus, Sutra du Lotus lui-même qui est un reliquaire de la pensée du Bouddha après son entrée en extinction, est donc assimilé aux reliques de l'éveillé en personne. La thématique du reliquaire reviendra plus tard, mais il faut ajouter d'ores et déjà que la copie elle-même nécessitait de grandes précautions, pureté rituelle, port du masque, etc. Dans certains rituels, le copiste devait d'ailleurs se prosterner, devant chaque caractère trois fois après l'avoir tracé, comme le fidèle va s'incliner devant les représentations du Bouddha lui-même. Ces copies donnent donc à voir le monde du Bouddha et le Bouddha lui-même siégeant dans ce monde splendide. Alors, dès le 8e siècle, on voit apparaître donc des sutras d'un type nouveau, donc des sutras calligraphiés sur des papiers coloris. On conserve aujourd'hui de nombreux témoignages de cette pratique. Les papiers sont en outre décorés de motifs floraux, végétaux ou animaux, qui sont toujours des motifs fastes. Et c'est un dispositif qui se retrouve d'ailleurs à la même époque pour des copies de recueils poétiques. Donc vous en voyez ici trois exemples. À partir de la fin du Xe siècle, l'ancien découpage en 8 plus 2 rouleaux, correspondant donc aux 10 journées de lecture commentée du sutra, a tendance à disparaître au profit d'un découpage selon lequel chaque chapitre du sutra du lotus est copié sur un rouleau indépendant. Donc cela nous donne des ensembles très importants de 30 rouleaux, 28 pour chacun des chapitres, plus les sutras d'ouverture et de fermeture. Les cérémonies de lecture commentée se voient donc portées à 30 leçons ou journées. Cette sorte de démultiplication, inflation matérielle du support s'accompagne de la diversification des procédés décoratifs qui tendent vers la polychromie. Ce nouveau découpage est également associé à la pratique de la copie collective, donc Ippon Ketchengyo, donc chaque participant se consacrant à la copie d'un chapitre du Sutra du Lotus. Cela signifie donc qu'il faut en théorie 30 participants pour les 30 rouleaux que comporte l'ensemble. Le premier témoignage de cette pratique de la copie collective est daté de 1021, donc on est vraiment dans cette période du XIe siècle. Parallèlement à cette évolution des pratiques et donc du format, les copies deviennent de plus en plus luxueuses et cette tendance décorative va atteindre son apogée avec les sutras du lotus polychrome du XIIe siècle, sur lequel je vais maintenant m'apesantir. On n'aurait pas tant dit un sutra, mais plutôt cru qu'on avait copié là un recueil poétique de la plus achevée des distinctions, c'était d'un art exquis et merveilleux. C'est ainsi que s'achève la description, dans un roman historique du XIe siècle, la description de la réalisation donc, d'un de ces sutras noueurs d'affinité avec le Bouddha au début du XIe siècle. Mais la comparaison finale ne doit pas nous faire perdre de vue que l'ornementation, qui semble susciter une si vive admiration à la cour, venait en sus offrir à la splendeur doctrinale du texte sacré un écrin qui n'avait rien de profane en soi, rappelons-le. La splendeur ornementale vise à évoquer la splendeur des paradis bouddhiques. Ici, donc, vous voyez deux exemples où, pour le fond donc de la calligraphie, on a utilisé un papier donc qui est traité, notamment teinté avec du clou de girofle, ce qui donne cette teinte brunâtre, rougeâtre, très particulière. Alors voici donc un nouveau type de sutra orné sur lequel je veux m'attarder un instant. Il s'agit donc d'un dispositif qui est non seulement chromatique, mais qui permet de transformer chacune des colonnes, chacun des caractères du sutra, donc de le transformer en reliquaire, en stupa. Donc le dispositif chromatique permet déjà de transformer le sutra copié en figuration du Bouddha siégeant donc dans son paradis, et donc de transformer sa parole conservée comme dans un reliquaire et dans son monde splendide. Mais utilisé en combinaison avec d'autres modes décoratifs, le recours au motif du reliquaire est lui-même attesté dans les sources à partir du Xe siècle, mais les plus nombreux témoignages datent du XIIe siècle. Et ce motif décoratif du stupa permet de suggérer littéralement la nature même, de souligner la nature même de la copie qui est en soi donc un reliquaire de la parole sacrée. Alors ce dispositif donc a pu connaître certaines variations comme ici, la transposition du motif figuratif sur le Bouddha lui-même. Donc ici, ce dispositif permet donc de faire comprendre que chaque caractère du sutra est véritablement donc l'équivalent du Bouddha lui-même. Dans l'exemple à droite, chaque colonne de texte est insérée dans un système, donc en haut le dais, en bas le piédestal, donc la figuration en haut de chaque colonne de dais et en bas d'un piédestal permet d'assimiler chaque colonne de texte au Bouddha lui-même, c'est-à-dire le présente véritablement comme était présenté donc sous un dais le Bouddha et placé sur le piédestal. À ce stade, un motif décoratif m'intéresse tout particulièrement ici. Il s'agit des arabesques de lotus, dont vous avez ici deux exemples. Donc cette plante étant, bien sûr, étroitement associée à la symbolique bouddhique, c'est un motif qui vient, encore une fois, de l'Inde et de la Chine. En général, il est réservé à la décoration d'objets cultuels, mais on peut aussi le rencontrer dans des peintures, y compris donc soit des peintures, comme ici, des peintures de couverture, soit des peintures de dessous, donc, c'est-à-dire sur lesquels vient prendre place la calligraphie elle-même. Alors, il s'agit donc de sortes de pages tapis très très particulières, mais c'est un motif extrêmement décoratif, hein, on le voit, mais qui n'en a pas moins une signification très précise dans la mesure où il renvoie, dans le texte du sutra lui-même, à la pluie de fleurs accompagnant la prédication du Bouddha. Je vais y revenir, mais avant cela, je voudrais présenter le plus complet exemple de sutra du lotus conservé pour le XIIe siècle. Donc, c'est une copie qui propose un aperçu tout à fait significatif du goût de la cour impériale à cette époque. Selon le texte de dédicace, donc cette œuvre éblouissante aurait été offerte en 1164 au sanctuaire donc d'Itsukushima, par l'un des membres du clan des Heike, donc le Taira no Kiyomori, qui était en fait leur chef et qui était l'homme le plus puissant à la cour à cette époque. Seuls 4 rouleaux ont perdu leur peinture, donc de couverture ou de frontispice, et ces pertes partielles nous empêchent aujourd'hui d'avoir une vue d'ensemble complète du dispositif décoratif proposé par cette copie exceptionnelle, mais il reste néanmoins beaucoup mieux conservé que les autres exemples contemporains et se trouve aujourd'hui encore et intégralement conservé dans le trésor du sanctuaire. Donc vous avez ici un exemple de page tapis avec ce motif des arabesques chinoises. Et c'est une copie qui a la particularité de systématiser tous les procédés décoratifs mis à profit depuis le 8e siècle. Donc voici donc un exemple tiré du chapitre 5. La calligraphie, donc en détrempe d'or sur fond doré, est traversée donc de nuages au clou de girofle, avec une saturation décorative des marges, ici et ici. Le calme chromatique relatif de la zone de texte par rapport aux marges peut s'interpréter en fonction du contenu du chapitre lui-même, donc qui insiste sur la complémentarité entre égalité et différenciation et la diversité des besoins des êtres auxquels l'enseignement du Bouddha, bien sûr, va apporter le meilleur. Voici un deuxième exemple, également signifiant, puisque le grand thème de ce chapitre 12 a un rapport avec le monde de la mer. Le texte est calligraphié ici avec des encres de couleurs différentes, bleu foncé, vert, argent, etc., qui sont ici les couleurs de la mer. Voici un autre exemple. Ici encore, donc, chaque caractère est de façon très signifiante, est tracé dans un cercle, la colonne étant surmontée d'un toit, d'un dais, et placée donc sur un soubassement, ce qui peut évoquer donc le stupa, suggérant ainsi une pagode aux nombreux trésors. Et ce thème de la pagode aux nombreux trésors est abordé dans le chapitre, donc le chapitre 11 étant l'apparition d'un stupa dans lequel surgit le Bouddha, nombreux trésors, Taro Nyorai. Et nous revoici arrivés aux arabesques. Donc ce motif très décoratif, que l'on retrouve à de nombreuses reprises dans cet ensemble. Voici quelques exemples. Donc, ces pages tapis décoratives présentent des fleurs de lotus tracées en arabesque, donc de façon très diverse, très diversifiée, comme vous le voyez. Cette figure s'explique non seulement par sa beauté ornementale et donc sa fonction rituelle, mais également par l'association entre lotus et prédication du Bouddha, entre lotus et éveil, puisque la pluie de fleurs accompagne la parole de l'éveillé et souligne les miracles dans le texte sacré. Elle invite à reconnaître à ce genre de peinture une fonction que, pour reprendre Jacobson, j'appellerais fatigue, comme accentuation du facteur de contact de la communication, ici communication visuelle, voire une fonction performative. Le rouleau incarnant la parole sacrée du Bouddha, celui qui l'ouvre, celui qui le lit, bénéficie de cette parole et voit littéralement la pluie de fleurs se répandre sur lui, se faisant réaliser l'éveil. Et voici donc un dernier point. Donc ce sont des scènes qui, cette fois-ci, sont des scènes tout à fait figuratives. Donc les peintures vues jusqu'à présent étaient décoratives, hein, même si c'est l'opposition figurative-décorative pose des problèmes. Mais les sutras ornés du XIIe siècle offrent aussi donc des scènes qu'on pourrait appeler figuratives, qui sont le plus souvent d'ailleurs très allusives et difficiles à interpréter. Et ces scènes figuratives ont aussi la caractéristique de ne pas suivre du tout les conventions venues de Chine. Donc, ils sont donc des illustrations très littérales du contenu du chapitre. Donc, l'une des grandes caractéristiques de ces scènes figuratives, notamment dans la version dite Heikinokyo, est de proposer souvent, non des scènes directement tirées du contenu du chapitre, qu'elles sont censées illustrer, comme par exemple les paraboles et les apologues, mais des représentations de la réception du sutra lui-même. Ici, donc, les personnages sont toujours des membres de l'élite, donc soit des nobles ou des dames de la cour, soit des moines ou des moniales, donc l'aristocratie impériale qui s'adonne à la prière, à la lecture du sutra, à des œuvres pieuses, voire à la copie ou à la lecture commentée du sutra, vous allez en voir un exemple. Ici, donc, dans cette peinture, deux rayons dorés émanent du coin supérieur gauche de la peinture. Comme il s'agit d'un frontispice, ça veut dire que ces deux rayons dorés émanent directement du début du texte du chapitre. Donc il y a une façon ici de souligner, donc par le biais de cette image, le bienfait que le spectateur de la peinture est censé recevoir de la lecture du texte sacré. Une autre version du lotus, très spectaculaire, dont il ne reste que le chapitre 28, où chaque caractère est tracé donc sur un piédestal, un trône de lotus, entouré d'un cerne d'or, comme la figure bouddhique elle-même, hein, qui est entourée d'une mandorle. Et pour la peinture de frontispice, où nous avons une scène de cérémonie, de lecture commentée du sutra par des moines. Voici donc un moine qui lit. Donc, qui commence à lire donc, le sutra, et donc ici un noble et donc d'autres moines qui participent à la cérémonie. Donc, avec un dispositif très complexe de mise en abîme de la réception, puisque cette copie du sutra elle-même était destinée à être précisément lue et commentée dans une cérémonie de ce type. L'atmosphère totalement irréelle, ménagée par le dispositif décoratif avec des découpures de semis d'or, de poudre d'or, permet de suggérer que cette cérémonie figurée ici réalise de façon performative la délivrance. On trouve aussi des scènes plus étranges encore, de contemplation extatique du monde splendide que le lotus laisse entrevoir aux fidèles. Donc un grand nombre d'exemples dans le Heikinokyo, je n'ai retenu que cette peinture, où les personnages, donc ici un noble de cour, deux dames de cour et une moniale, donc sont figurés devant un étang de lotus dans un paysage paradisiaque, qui est annoncé dès la peinture de couverture, ici. Donc le spectateur voit d'abord cette peinture, puis celle-ci. Ils sont représentés, donc, cette fois-ci, à l'intérieur du paradis bouddhique. Le dispositif suggère ainsi qu'ils ont déjà réalisé l'éveil, l'image ayant une fonction performative. Et à travers ces personnages, c'est le spectateur lui-même qui, bien sûr, réalise la délivrance. Alors, pour terminer avec cette notion de performativité qui me semble extrêmement importante dans ces sutras ornés, donc je vous propose la comparaison donc, d'une peinture dite donc, profane, puisqu'il s'agit de l'illustration, de la mise en image d'un roman courtois, hein, le grand roman du Genji, et ici donc une figure tirée d'une peinture du Heikinokyo, donc de ce sutra. Donc revenons un instant sur ces personnages qui figurent dans ces sutras ornés. La plupart des études ont remarqué l'irruption au XIIe siècle dans la peinture religieuse de codes iconographiques propres au genre de la peinture narrative de cour à thème profane. Les personnages y sont traités de façon très stylisée. Cette caractéristique des sutras ornés doit se comprendre, à mon avis, selon l'interprétation qui a été donnée par un historien de l'art japonais, Akiyama Terugazu, dans le cas des romans illustrés, comme le fameux dit du Genji. Donc dans ce cas-là, les conventions, cette convention donc de stylisation des personnages avait pour but de permettre l'identification des spectateurs aux personnages dont ils lisaient les histoires. Dans le cas de la peinture de sutra que vous voyez en dessous, on peut se demander si l'objectif n'était pas identique. Donc, si les sutras ornés tels que le Heikinokyo correspondaient par leurs moyens expressifs au goût profane des nobles de la cour, il reste que cette splendeur décorative relevait du shogun. Elle visait donc à suggérer les merveilles sans supérieur des paradis bouddhiques auxquels donc, ces nobles aspiraient dans des temps de vive inquiétude religieuse. Donc, si la copie de sutras constitue l'expression dévote d'un espoir spirituel, elle en propose aussi et simultanément la réalisation, du moins dans mon interprétation. La couleur, monochromie, bichromie, polychromie, ne saurait donc ici s'envisager sans tenir compte de ses connotations symboliques, et plus encore de la valeur proprement performative qu'elle permet de conférer à l'ensemble du dispositif signifiant. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre la communication de Claire Akiko-Brisset, de l'Université de Paris Diderot, intitulée « Couleurs et sacrés dans le Japon classique », dans le cadre du colloque de l'Académie des inscriptions et belles-lettres « Voir et concevoir la couleur en Asie » qui s'est déroulé en janvier 2013. Retrouvez l'ensemble des interventions de ce colloque sur Canal Académie.